Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bon matin, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue à Universitaire en action tous les dimanches matin, 9h, 10h AM, sur les ondes de CSM, le 89.3 FM, la plus grande radio universitaire francophone au monde, mesdames et messieurs. Donc aujourd'hui, au menu pour vous, mais on a du contenu, encore une fois, du très bon contenu, parce qu'on va parler avec un joueur de football qui joue avec les Wildcats de l'Université du New Hampshire. Ça, c'est évidemment dans l'État du New Hampshire, aux États-Unis. Il s'appelle Josh Filion, c'est un receveur de passe, wide receiver. On va lui parler, une entrevue d'une trentaine de minutes que j'ai réalisée avec lui. On le remercie encore une fois beaucoup pour son temps. Vous le savez, ici à Universitaire en action, on essaye de vous avoir des entrevues à chaque semaine avec des athlètes dont on parle très peu dans les médias traditionnels. Et bien nous ici, côté CSM, côté CFAC également en rediffusion, et bien on parle des athlètes universitaires qui font vibrer le sport collégial québécois, canadien ou américain. Et on remercie bien sûr le département des communications des Wildcats de l'Université du New Hampshire. Au New Hampshire. Donc on va parler avec Josh Filion, ça s'en vient dans quelques minutes. Également, on va terminer l'émission, puisqu'on parle de football américain, là, de football, de college football, on va vous présenter les plus gros stades de football aux États-Unis. Donc, quels sont-ils? Il y a des stades de football américain qui ont plus de 100 000 spectateurs. Donc, on va en parler. Certains sont d'ailleurs plus grands que les stades de la NFL. Vous le savez, le football aux États-Unis est une religion. Dans beaucoup d'endroits aux États-Unis, pas dans tous. Par exemple, dans le sud des États-Unis, on le sait, c'est très populaire. Également, le Midwest également. Donc, on va parler de ça pour conclure l'émission. Et pour débuter l'émission, on va vous présenter les championnats nationaux que nous allons avoir, parce que ça s'en vient, là, c'est tous dans le mois de novembre. Donc, c'est dans moins d'un mois que la plupart des championnats canadiens vont commencer par rapport au sport universitaire québécois et canadien. Donc, on va y aller. Le champion de hockey sur gazon, eh bien, ça va être dans la ville championne d'Ontario. C'est là que ça va se tenir. On ne sait pas encore c'est qui. Donc, il y en a certains encore que c'est « to be determined », donc à venir. Les rugby, le rugby féminin, ça va se passer du côté de l'Université Laval à Québec entre les 1er et 5 novembre. Le soccer féminin, ça va se passer du côté de Queen's University en Ontario. Cap Breton, l'Université du Cap Breton, Cape Breton University, le soccer masculin du 9 au 12 novembre. Le cross country, ça se passe du côté de Western University le 12 novembre. Et le football universitaire, la Coupe Vanier, cette année, eh bien, c'est le 25 novembre à Queen's University en Ontario. Donc, Queen's qui ont quand même des championnats, plusieurs championnats cette année. Ça, c'est pour tous les championnats pour les sports d'automne. Après ça, il va y avoir la saison des championnats pour les sports universitaires d'hiver. Ça va se passer probablement côté avril. On reviendra plus tard là, l'année prochaine pour vous en parler. Et pour ce qui est des championnats de football, ben vous le savez, là, UTech Bowl et Mitchell Bowl, ça dépend des équipes qui vont se qualifier. Donc voilà, on va y aller avec Josh Filion en entrevue. Après ça, on va revenir avec nos nouveautés francophones de la semaine. Et on va terminer le tout avec les stades de football collégial, football universitaire aux États-Unis. Chers auditeurs, chères auditrices, bonne entrevue avec Josh Filion. Chers auditeurs, on est avec Josh Filion, receveur de passe qui pratique son football du côté de l'Université de New Hampshire, les Wildcats. C'est ça qu'on dit, Josh?
University of New Hampshire Wildcats. Ouais.
New Hampshire Wildcats, parfait. Donc, merci beaucoup de nous accorder ton temps. Ça fait partie de la NCAA, c'est-à-dire le College University. C'est ouais. La deuxième division. Est-ce que c'est ça? C'est-tu comme ça qu'on l'appelle?
Dans le fond, il y a une différence. C'est quand même du football Division 1, mais c'est du football Division 1 AA ou FCS, qui est Football Championship Subdivision. Fait d'abord, tu as deux différents niveaux de football division 1. Tu as Football Bowl Subdivision, qui est la plus haute division. Ensuite, tu as la deuxième division 1, qui est Football Championship Subdivision.
OK. Puis, est-ce qu'il y a une possibilité que les équipes des deux divisions s'affrontent?
Ouais, comme cette année, on a joué contre une deuxième semaine, on a joué contre Central Michigan.
OK.
Et FBS, puis nous, on est FCS, ouais. Fait qu'à chaque année, je dirais, mettons, une équipe FCS va jouer contre une équipe FBS dans leur schedule.
OK. Ben on va y revenir tantôt, là. J'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Mais tout d'abord, Josh, on va te demander une mini-biographie pour savoir tu viens d'où, parce que je pense pas que tu sois né au New Hampshire. Je crois que tu viens de Québec, la capitale.
Oui, je viens de précisément, je viens de Lévis. Mais
OK.
oui, je dis toujours la ville de Québec parce que c'est plus connu un peu que Lévis, disons, là.
Oui.
Mais ouais, fait que je viens de Lévis. Lévis-Québec.
OK, tu as grandi là-bas?
Ouais, j'ai grandi là-bas.
Que t'as pas de t'es pas, t'as pas un passeport américain, là. T'es vraiment Québécois de Québec.
Ouais, je suis ouais, purement Québécois de Québec, ouais.
OK, cool. Puis, dans le fond, ta passion pour le sport, pour le football, est-ce que je sais qu'à Québec, c'est populaire. Ça vient d'où? Puis depuis quand tu joues?
J'ai toujours joué au hockey en grandissant, tu sais, venant du Québec, ben, puis même du Canada, tu sais, beaucoup de monde ont joué au hockey quand ils sont jeunes. Mais j'ai commencé à jouer au football quand j'avais 8 ans avec le Mini Rouge-Or, qui est l'université de Laval, dans le fond, qui font comme un programme avec les jeunes. Fait qu'à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à jouer au football.
OK, à l'âge de 8 ans.
Ouais.
Puis après, est-ce que tu as eu du cégep collégial? Comment ça s'est passé?
Dans le fond, je suis allé à St. Patrick's High School, qui est une école anglophone dans la ville de Québec.
OK.
Jusqu'à mon secondaire 4, j'ai fini mon secondaire 4, puis après ça, j'ai fait mon secondaire 5-6 aux États-Unis, à Canisius High School, in Buffalo, New York. C'est là que j'ai joué mes 2 dernières années de secondaire, après d'aller, après ça, j'étais allé à l'Université du New Hampshire.
Puis t'as été repêché dans le fond à cause de ton talent par Buffalo, est-ce que c'est ça?
Un peu des deux, un peu de moi qui poussais pour aller jouer là-bas, puis un peu les autres aussi en même temps qui ont vu que mon vidéo était bon quand j'étais plus jeune, fait qu'ils ont dit, tu sais, pourquoi pas, puis ils m'ont aidé après ça à faire la transition à l'école
OK, cool, OK, fait que t'as vraiment un parcours atypique.
là-bas.
École anglophone secondaire à Québec, il n'y en a pas beaucoup, je crois.
Vraiment pas beaucoup, non?
Pas beaucoup. Buffalo, New York,
Ouais.
qui est une ville, j'ai été une fois, ça fait très longtemps, pour quelques heures. C'est comment Buffalo, New York? On entend des choses, des bonnes, des moins bonnes. Il paraît qu'il y a beaucoup de beaux endroits, puis en même temps, les gens disent que c'est plat. Toi, tu as trouvé ça comment, Buffalo, New York?
Moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça à cause du monde avec qui j'étais entouré pendant mes 2 années là-bas. C'est sûr. La ville de Buffalo elle-même, j'ai aimé. J'ai beaucoup. Tu sais, it's called the City of Good Neighbors.
Oui.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans cette ville-là. Puis beaucoup de monde qui se regroupe autour des Bills aussi, surtout.
Oui.
Fait que c'est beaucoup de. Moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré le monde. J'ai adoré l'école que j'ai été. J'ai adoré la ville elle-même. J'ai adoré les endroits aussi. Je ne vivais pas dans la ville de Buffalo même, je vivais environ 30 minutes à l'extérieur. Mais tu sais, d'aller à l'école, j'allais à l'école downtown Buffalo à chaque jour. Fait que j'étais toujours entouré par la ville de Buffalo. Mais j'adorais ça, puis il y avait toujours de quoi à faire aussi. C'est
Oui.
pas une très grosse ville, c'est sûr. Mais l'alentour de Buffalo est quand même assez grand.
OK.
Toujours de faire, oui.
Puis les Bills, évidemment, c'est l'équipe numéro un là-bas.
Ouais.
Toi, est-ce que tu y as été quelquefois? Les tailgates, j'ai regardé, ça dit que dans la NFL, c'est le troisième meilleur tailgate de la NFL. Est-ce que tu as.
Je dirais que c'est même le meilleur. Je dirais qu'il n'y a rien qui peut surmonter ça. J'ai été assez chanceux de. J'ai vécu dans une famille d'accueil
OK.
qui ont été moi un autre joueur canadien. Puis lui, dans le fond, il fait beaucoup d'affaires avec des joueurs de NFL. Puis il y avait une couple de joueurs des Bills qui représentent comme clients. Fait que j'étais assez chanceux durant les 2 années que j'étais là-bas d'aller à chaque game à la maison. Fait que j'étais
Wow.
souvent par ça, puis voir beaucoup la culture. Avec les Bills, mais moi je dirais que j'ai pas été à beaucoup de games de NFL, pas des Bills, mais je dirais que je pense pas qu'il y a rien qui peut battre ça.
OK, cool. Puis donc là, tu joues à Buffalo, le high school, bon, comme on dit, secondaire 5 et 6. Après
Ouais.
ça, est-ce que tu es repêché par le New Hampshire or?
Ouais, ben dans le fond, après ça, j'ai été recruté pour aller jouer à cette université-là,
OK.
ouais.
Puis New Hampshire, moi, j'ai été quelquefois en auto, hein, comme toute personne qui habite au Québec.
Ouais.
Je Je pense que c'est le seul État américain où est-ce qu'on peut conduire sans la ceinture de sécurité.
C'est ouais, un podcast non plus, c'est en moto. Beaucoup de différentes règles. Ouais.
OK, c'est ça. Fait que c'est spécial. C'est l'État où est-ce que dans Breaking Bad, Walter White il termine ses jours là, dans la petite maison dans le New Hampshire. Je ne sais pas si tu l'as vu là.
Oui, j'ai écouté Breaking Bad, oui.
OK. Ouais. C'est un état, ça a l'air d'être un bel état. Comment est-ce qu'elle est la vie là-bas à Durham, New Hampshire? Ça ressemble à quoi?
C'est très, très, très tranquille comme place. Je te dirais que dans la ville de Durham, la seule affaire vraiment qu'il y a, c'est l'université elle-même. C'est vraiment, je pense qu'il y a moins de 1000 ou 2000 personnes qui habitent ici dans les alentours, qui vont pas à l'école ici.
OK.
Fait que je te dirais que c'est dans le plein milieu des bois. Mais tout a été bâti à l'entour de l'université. Okay. Et c'est vraiment really a college town, plus que n'importe quoi d'autre. Là, c'est pas, mettons, dans la ville de, mettons, si tu irais à Boston University ou quand même, où tu as une grosse alentour, c'est plus vraiment tout c'est bâti à l'entour de l'université du New Hampshire. Mais dans les alentours, à 15-20 minutes, tu as Portsmouth, on est très proche de l'eau aussi.
Oui.
Plage durant l'été aussi, comme que tu dis, beaucoup de Québécois vont visiter durant l'été souvent aussi. Là. Fait que, mais c'est très, très, très tranquille. C'est beaucoup de nature. Fait que c'est paisible.
Vous êtes près de l'océan Atlantique, là, direct dessus,
ouais,
à 30
ouais.
minutes.
Oui, oui, même je te dirais qu'à moins 2000 d'ici, qu'il y a de l'eau qui sera à l'océan. Là.
OK, excellent. Ouais. Puis là-bas, bon, c'est vrai, vous êtes sur le bord de l'océan Atlantique, ben, à 30 minutes là, à peu près. Les plages là-bas, pour se baigner dedans, elles sont trop froides?
Elles sont froides. C'est sûr que tu peux te baigner. T'sais, tout le monde le fait quand même un petit peu. Ça dépend à quel point tu as chaud, je dirais, durant la journée pour savoir combien de temps que tu veux te baigner dans l'eau. Mais non, loin froide. Loin très, très, très froide. Okay. Mais les plages sont belles. Il y a des belles plages, puis le sable est beau aussi. Puis quand il fait, on a de très, très belles températures ici, surtout durant l'été. Même maintenant, je pense que les 3-4 derniers jours, il a fait 28, 29, 30. Là.
OK.
Fait que tu sais, il fait assez chaud dehors, puis c'est toujours fun d'aller à la plage. Quoi. Mais oui, l'eau est très froide. Fait que c'est juste une petite source.
Quand tu m'as parlé d'une college town, je ne sais pas si tu connais Bishops à Lennoxville.
Oui.
Tu dirais que c'est similaire à toi, c'est-à-dire qu'une très petite ville avec l'université qui est le poumon de la ville?
Oui, ça ressemblerait à ça. L'université du New York est beaucoup plus gros que Bishop et Lennox. Je dirais, en combiné, je pense qu'il y a 16 000 personnes qui vont à l'école ici. Fait qu'un un peu plus gros. Mais oui, je dirais que c'est mon beau-père était à Lennox.
OK.
J'étais à Lennox et j'ai vu un petit peu à quoi ça ressemblait une couple de fois en passant aussi à travers. Mais définitivement, ça ressemble à ça, oui.
OK. Et maintenant, votre division, j'ai regardé là dans le NCAA, votre division, elle a 2, 4, 6, 8, 10, 12, à peu près 15 équipes. Vous ne jouez pas contre les 15?
Non, on joue 11 games par année. Cette année, on en joue 8 en conférence.
8 en conférence. Puis, dans le fond, vous, votre objectif, c'est quoi? Parce que comment ça fonctionne, en fait? Parce que le football, c'est différent de beaucoup de sports. Je sais qu'il y a les bowls là, qui se passent. C'est quoi les objectifs que vous avez comme équipe? Et c'est quoi le plus haut que vous pouvez atteindre dans une saison? Like le pinnacle, le best miracle, ce que vous pouvez faire de mieux.
Oui. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, comme tu dis, les bowls, ça, c'est pour la conférence par-dessus nous. Ça, c'est ceux qui gagnent plus de 6 games à chaque année, bien, ils sont éligibles pour aller jouer un bowl. Tant parce que eux autres, FBS, ils ont juste 4 ou 5 équipes qui font les playoffs à chaque année.
OK.
Tandis que nous, on a 24 équipes qui font les playoffs à chaque année. Dans le fond, nous autres, ils en ont juste 4 parce que c'est les 4 meilleures équipes qui vont finir la fin d'année qui vont prendre pour faire, tu sais, mettons, comme quand c'est Alabama contre, Alabama contre Georgia, okay? Tu sais, quand ça finit à la fin comme ça. Tandis que nous, on a vraiment plus des vrais playoffs avec 24 équipes totales.
OK.
Oui, fait que dans le fond, les 24 équipes qui finissent le plus haut placées à la fin de l'année vont faire les playoffs pour nous. Puis moi, je te dirais que nous, notre objectif, c'est toujours de gagner notre propre conférence, ce qu'on a fait l'année passée. Puis après ça, ben, d'aller jouer dans les playoffs, c'est pas ça de tout gagner.
OK, quand tu dis que c'est les 24 équipes les mieux classées, par exemple, si vous, les 15 premières de votre division sont les 15, ben ça se peut pas, là. Mais est-ce que c'est y a un nombre minimum par division ou c'est tout simplement les 15 meilleurs puis that's it? Les 24, t'as dit, excuse.
C'est vrai, c'est les 24 meilleurs, mais c'est sûr que ils vont toujours avoir le champion de chaque ligue, de chaque conférence va toujours se rendre au playoff.
OK, de chaque conférence.
Dans le fond, ouais, ils vont toujours finir, ça finit toujours, ils finissent toujours placés à ce niveau-là, puis ils vont toujours finir par faire les playoffs en même temps.
OK. J'ai regardé tantôt, me semble, le meilleur résultat que vous avez eu, si je ne me trompe pas, c'est des demi-finales, c'est ça?
Oui, le plus haut qu'on s'est rendu, oui.
OK, puis c'est 2013-2014, puis l'année dernière, 2022, 16e de finale, round of 16.
Ouais, on a perdu contre Holy Cross l'année passée. On a battu Fordham la première semaine. Dans les playoffs, c'est parce qu'on a perdu contre Holy Cross la deuxième semaine.
OK. Et puis, l'équipe championne de cette division-là, de où est-ce que vous jouez, là, l'équipe number one, elle a fait le national champion de votre division. Est-ce qu'elle a le droit peut-être à un match contre une équipe de la division supérieure ou c'est pas vraiment...
Non, c'est pas... Non. Okay. D'habitude, c'est respectif dans la division dans laquelle tu joues.
Ouais. OK. Excellent. Et donc, vous, votre objectif, c'est de terminer dans votre division. Est-ce que vous croyez au National Championship cette année pour New Hampshire Wildcats?
Ben, je te dirais qu'on y croit chaque année. On a la plus longue tenure d'équipe qui fait les playoffs à chaque année. Je pense que dans les dernières 20 années, on est allé 17 ou 18 fois.
Okay.
Fait que dans l'histoire de notre division FCS, on est l'équipe qui s'est rendue le plus de fois. On s'est rendu l'année passée, on a joué assez loin, on s'est rendu assez loin. C'est quoi qu'on croit à chaque année, parce que c'est le programme qu'on a, puis c'est avec le monde qu'on recrute, c'est quoi qu'on pense qui est possible à chaque année. On y croit encore cette année beaucoup. Moi, je pense qu'on y croit maintenant plus que jamais. On est 2-3 présentement. Ça a été plus dur commencer la saison, mais il nous reste encore 6 games. Puis en gagnant chacune de ces games-là, c'est sûr qu'on sera en playoff. Après ça, on va voir comment ça va après ça. Mais c'est définitivement de quoi qu'on croit en chaque année.
OK, okay cool. Puis dans votre division, j'ai regardé tantôt vite, si je ne me trompe pas, vous avez une rivalité avec Maine.
Oui.
Est-ce qu'il y en a une autre aussi, non?
Il y a Maine puis Dartmouth, qui est l'autre équipe division 1 de New Hampshire.
New Hampshire, OK. Puis ouais. Dartmouth, est-ce que c'est une plus grande ville que où est-ce que vous êtes?
Je suis jamais allé.
Ah!
Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais je te dirais que sûrement. Je ne sais vraiment pas. Je sais que c'est probablement New Hampshire parce que j'ai une couple de amis qui viennent de cette ville-là, qui jouent au football présentement ici, mais je ne sais vraiment pas à quoi ça ressemble. Là.
OK. Excellent. Puis vos games, là, parce que comme tu sais, c'est une petite ville, New Hampshire, là, il n'y a pas de Canadien de Montréal ou les Alouettes, ou bon, il n'y a pas ça. Donc vous êtes l'attraction majeure sportive presque de tout l'État.
Oui, je dirais oui, tellement, oui, pour les sports, définitivement.
Donc, quand vous jouez, je crois qu'il y a 11 000 places, là. Est-ce que ça se remplit pas mal?
On a plus de places que ça. Je pense que le max qu'on rentre, c'est 16, 17 ou 18.
Wow.
Je dirais qu'en moyenne, je pense, l'année passée, c'était 11 000. 11 000 ou 12 000 en moyenne.
Okay.
Ouais. La semaine passée, on a joué contre Towson et on a eu 14 000 personnes.
14 000, OK, c'est beaucoup. Ouais. Puis, vos... quand vous marchez dans la rue, là, est-ce que vous êtes des idoles? Est-ce que les gens vous arrêtent là-bas pour vous dire « Hey, you're the football player » ou non, pas trop?
Pas vraiment. C'est pas une assez grosse ville. Puis comme j'ai pas du monde qui vont là, qui sont là, c'est parce qu'ils vont à l'école là-bas. Fait que on se côtoie quand même assez souvent. T'sais, c'est 16 000 personnes, mais quand tu tombes sur le même horaire que tout le monde va, bien, c'est souvent par côtoyer le même monde assez souvent.
Oui.
Fait que c'est pas on n'est pas des célébrités ou rien.
Puis à l'université, les est-ce que les, je sais pas moi, les vous êtes plus populaire, les gens vous parlent, vous arrêtent, vous encouragent ou vous faites juste votre vie puis that's it.
Ben, c'est sûr qu'il y a comme que tu pourrais dire un peu de hype autour de nous parce que tu sais on joue au football puis tu sais on est bien placé puis on a une bonne équipe. Fait que c'est sûr que le monde va souvent dire certaines choses. Mais je ne dirais pas qu'on est placé sur un plateau ou placé plus haut que tout le monde d'autre. Là.
OK. Excellent. Pas pire. Pas pire quand même comme entrevue. Puis je vois que vos matchs... Bon, celui à Central Michigan, c'est à peu près Mount Pleasant, Michigan. Ça, c'est loin, pareil, là, de chez vous.
Oui, très loin.
Vous avez pris l'avion pour vous déplacer?
Oui, on a pris l'avion. On a des chartered flights. où on a notre propre avion pour descendre d'abord et pour revenir.
OK. Puis tous vos autres déplacements, comme c'est, je crois, dans le coin de la Nouvelle-Angleterre, là, New England, c'est tout en autobus les déplacements, hein?
Oui. Je pense qu'en bas de 4 heures ou en bas de 3 heures, on va faire tout ce qui est en autobus.
OK.
Mais tout ce qui est plus que ça, après ça, on va prendre l'avion.
OK, cool. Puis, puis sinon, ils sont diffusés. Là, j'ai vu que celui à Central Michigan, c'était diffusé sur ESPN Plus. J'imagine que pour vous, c'était quelque chose de très big, là. C'était important. Puis vous l'avez perdu ce match-là 45-42, donc quand même, vous n'avez pas été loin.
Très
proche, oui, exact. Est-ce que c'est le match le plus fancy que vous avez joué dans votre carrière ou il y en a d'autres qui vous viennent à l'esprit?
Ben, moi, c'est ma première année vraiment que je joue. L'année passée, I took a redshirt year, fait que j'ai pas joué.
OK.
Mais pour moi, c'était la plus grosse game que j'ai joué dedans cette année, définitivement. C'est pas la game, je dirais, qui a valu le plus, parce que c'est pas une game en conférence. T'sais, moi, je pense que la game la plus importante qu'on a joué à date, c'était contre Delaware, quand on est descendu là pour 2 semaines.
Oui.
Mais en même temps, on a de quoi ici, on a un proverbe que c'est la prochaine game, c'est la plus importante. Il y a jamais une game qui est plus importante qu'une autre. C'est juste de continuer à chaque semaine, puis de persévérer, puis chaque game après ça, ton jeu, c'est la plus importante. Mais c'est toujours ça qu'on regarde en face, puis jamais en arrière. T'sais, on est 2-3, mais on a les espoirs qu'on peut se rendre à un National Championship, puis aller dans les playoffs, puis tout gagner. Fait que c'est jamais de quoi. On regarde jamais dans le passé en se disant, bon, on aurait pu faire de quoi de différent. T'sais, c'est toujours.
Okay.
La prochaine game, c'est la plus importante. Puis ça, ben, c'est dans le fond. On joue pas ce week-end parce qu'on a un bye week.
Oui.
Game, c'est contre Albany qui est le week-end prochain, puis c'est le plus important, puis c'est même qu'on bouge toujours à chaque semaine.
OK, exactement. Albany, là, le 14 octobre, le samedi, chez vous à Durham, New Hampshire. On dit New Hampshire en anglais, c'est ça?
Oui, Durham, New Hampshire. Ouais.
New Hampshire, OK. Et quand vous jouez, là, j'ai remarqué, bon, vous vous déplacez, vos matchs sont souvent les samedis. En fait, je pense qu'ils sont tout le temps les samedis. Est-ce que vous déplacez le samedi même ou vous vous déplacez le vendredi puis vous dormez à l'hôtel? Comment ça marche?
Toujours le vendredi. Fait qu'on va souvent, comme la première game, on a joué contre Stonehill qui était environ à 2 heures d'ici, fait que pas trop loin. On est parti en début d'après-midi, mais sinon, toutes les games où on va voyager en avion, on va partir le vendredi matin.
OK.
On va arriver là, je dirais vendredi après-midi, vendredi soir pour jouer après ça le samedi après-midi.
OK, c'est ça. Fait que vous dormez à l'hôtel.
Ouais, oui.
Fait qu'il y a un peu de budget là au New Hampshire.
Oui, oui. Okay.
C'est bon. Puis autre question. Bon, je sais que c'est pas tout à fait. Je crois que c'est pas tout à fait le même sport, mais je peux me tromper. Si on compare, par exemple, le Rouge-Or de l'Université Laval, qui est probablement la meilleure université au pays, là, du moins historiquement, ces dernières années, avec votre université du New Hampshire, est-ce qu'il y a match ou bien vous êtes beaucoup trop fort ou eux sont trop forts ou c'est pas tout à fait le même sport? Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Ou...
Ben, je pense que le football au Canada est bon, mais je pense qu'il y a une très grosse différence de jeu entre les deux, entre du football Division 1 et du football U Sports canadien. Je pense qu'il y a des très bons athlètes des deux côtés. T'sais, il y a beaucoup de bons athlètes qui jouent aux U-Sport, mais je pense que juste en général, le football américain est beaucoup, beaucoup plus fort.
Beaucoup plus fort, OK. Et toi, pour ton développement, j'imagine que c'était mieux d'aller aux États-Unis que de rester au Québec.
Ouais, oui, oui. Ben pour les objectifs que j'ai de jouer au football le plus loin possible, oui, c'est mieux d'aller jouer aux États-Unis.
Et est-ce que, j'imagine, tu étudies en même temps, est-ce que tu veux nous partager ton champ d'études?
J'étude en finance.
Finance, OK.
Ouais, ouais.
Et tes objectifs personnels, est-ce que tu es plus... Tu veux avoir une carrière de football pour faire ça, pour gagner ta vie avec ça, and you're living with that, ou bien tu te dis, ben moi, j'ai plus de chances de travailler dans le monde des finances par la suite?
Ben, c'est sûr que le but, puis the dream has always been to play in the NFL. Ben, il y a rien de mieux que ça comme travail au monde, de pouvoir jouer un sport professionnel puis de gagner ta vie comme ça, ben, c'est sûr que... That's the dream, puis c'est pour ça qu'on travaille, puis on continue toujours en l'espoir de pouvoir faire ça un jour. Puis, tu sais, après ça, le travail, le travail, ben, ça va toujours pouvoir, tu sais, there's always going to be that in life, là.
Oui.
Le but, c'est de pouvoir poursuivre the dream for as long as possible, parce qu'une fois que c'est parti, ben, tu sais, tu peux pas revoir ça après.
OK.
Fait que, c'est ça, pousser pour as long as possible to play professional football, que ce soit dans la NFL, que ce soit dans la CFL, après ça, ben, quand un jour ce sera le temps de hang up the cleats, ben, ça sera ça. Après ça, on va faire une carrière avec ce qu'on va avoir étudié à l'université en finance ou en admin ou n'importe quoi comme ça.
Oui, c'est ça, parce que ça donne quand même un très bon backup, là, un diplôme d'université américaine.
Oui, effectivement.
Et si je ne me trompe pas, au New Hampshire, est-ce qu'il y a une équipe professionnelle sportive?
Je pense pas, non.
Non, non. Hein?
Je pense qu'il y a une équipe 2 ou 3 de baseball, les Fisher Cats. Mais à part de ça, je te dirais que non. Il y a pas, je pense que la population du New Hampshire n'est pas si grande pour okay. avoir une équipe professionnelle.
Ouais. Et est-ce qu'en général, les gens là-bas, ils se rallient, bon, parce que ça fait partie de la Nouvelle-Angleterre, on sait, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Est-ce que les gens se rallient là-bas à une équipe, est-ce que les Red Sox, les Canadiens, les Sénateurs, les Bills, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ou est-ce que y a-t-il une équipe professionnelle que les gens supportent plus là-bas que n'importe quelle autre?
C'est sûr que c'est tout ce qui est de Boston, c'est ce que le monde.
Boston, OK.
Fait que ce soit Celtics, Bruins ou les Pats, n'importe quoi qui est, c'est ça.
Okay.
Surtout que ces équipes-là ont toujours eu tellement beaucoup de succès que c'est dur à pas, tu sais.
Oui.
Des plans au cœur, là.
Puis c'est pas très Yankees de New York?
Non. Non, c'est pas très Yankees, non.
OK, il y a une rivalité un peu en New England puis New York?
Oui, très, très grande rivalité. Okay. Oui, très, très grande rivalité, ouais.
C'est bon. En fait, vous êtes pas loin de Boston, vous. Vous êtes à...
Un heure et quart, je dirais.
Un heure et quart, ouais, c'est ça.
C'est pas loin, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est fun avec l'université ici. Comme là, je suis allé voir les Pats jouer les Dolphins, il n'y a pas trop longtemps. Tu sais, on est dans une distance d'un heure, un heure et quart.
Wow. Fait
que c'est tout ce qui est les games des Pats, quand les Celtics ils jouent, après ça, quand les Red Sox ils jouent, c'est fun, c'est proche. Puis en même temps, ce qui est bien, c'est qu'on a le train ici qui passe à l'université directement dans le campus qui nous rend à North Station, dans le fond, qui est direct où c'est les Celtics. Puis. Les Browns y jouent.
Wow, ça c'est du transport. My God. Ouais. OK. Et petite question là, indiscrète, tu n'es pas obligé de répondre si tu ne veux pas, mais comme joueur qui joue college football, est-ce que quand tu vas voir les Patriots, est-ce que tu peux avoir des billets ou ils s'en foutent puis tu payes tout ou comment ça?
Je paye tout.
Tu payes tout, OK. OK, il n'y a pas une bière à faire tirer, mettons, pour le joueur de la semaine ou quelque chose
non,
comme ça.
Non, c'est une bonne idée, mais non, dans la fois que okay. je suis allé, j'ai payé plein de prix.
OK. Puis dernière petite question pour les gens, mettons, qui veulent aller vous voir, faire un petit road trip à Durham. Tu dis qu'à Durham, il n'y a pas grand-chose à voir, par l'université puis le football. À part Boston, là, est-ce qu'il y a des trucs alentour que tu recommanderais pour faire du tourisme là-bas, visiter des belles petites villes ou quelque chose comme ça?
Oui, Portsmouth, ce serait la ville que je recommanderais au monde. Environ à 15 minutes de l'université.
OK.
Ouais, Portsmouth, New Hampshire. Après ça, il y a sûrement Kittery, Maine, qui a beaucoup de monde connaît à cause des outlets. Il y a des outlets à Kittery, qui est dans le fond. Aussi, un autre 15-20 minutes, je dirais, maximum.
OK.
C'est deux villes, près sur le bord de l'eau. Beaucoup, beaucoup de restaurants, beaucoup de petites boutiques. Portsmouth, je pourrais comparer ça à le Vieux-Québec. Ouais, ça ressemble à ça. T'sais, beaucoup de petites boutiques, beaucoup de restaurants sur le bord de l'eau. Le monde mange sur le bord de la route. C'est vraiment beau comme petite ville. Là.
OK. Puis est-ce que tu reviens l'été ou tu restes là-bas à côté de l'océan Atlantique?
Je reviens l'été. Dans le fond, c'est la seule été que j'ai eu à date, ça a été l'été passé. Mais oui, je retourne à la maison. Ouais.
OK.
Je suis revenu un peu plus de bonne heure. Je suis revenu mi-juillet. On commençait notre camp au mois d'août. Je suis revenu 2 semaines en avance pour me remettre dans le beat avec le corps et
tout le joueur. OK. Ouais. Puis dernière chose, tu as dit tantôt, vous jouez 11 matchs par saison dans votre schedule, mais avec, mettons, les playoffs et tout ça, c'est quoi le plus de matchs que vous pouvez jouer dans une année? Mettons, le max, ce serait combien?
Je pense que c'est 15 ou 16, le max que tu jouais. Ouais. On a joué 13 l'année passée. On a fini 9-4 l'année passée. Puis ça, je pense que c'est 15 ou 16 games. Ça dépend, dans le fond, si tu te rends en finale puis si tu as eu un bail. Parce que je pense que si tu es dans les top 4 au pays ou top 8 au pays, tu ne joues pas la première game des séries.
Ah, OK, tu as un bail. OK, comme dans la NFL un peu.
Oui, je pense que c'est dans...
Puis est-ce que tu regardes les matchs de la CFL un peu des fois, si tu as le temps ou...
Des fois, oui. Oui, banalement, parce que j'aime ça, parce que ça fait différent du football américain. À cause des règles, puis surtout à cause pour les receveurs, c'est une grande différence avec les gars qui sont gardés en motion et tout. Puis surtout, ça passe beaucoup de ballons, parce que c'est 3 essais à la place de 4.
Oui, c'est ça.
Et aussi, j'ai une couple de personnes que je connais au Tottenham Massey du New Hampshire qui ont eu la chance de jouer dans la CFL. Et c'est toujours le fun de 4 de voir ça aussi.
Mais il y a Étienne Boulay qui a joué avec ton université et puis qui a joué avec la CFL. Ça, est-ce que c'est un objectif pour toi qui serait bon si tu jouais dans la CFL? Je sais que tu m'as
Ben oui.
dit tantôt NFL, mais CFL, c'est bon quand même.
Ben oui, c'est très bien. Ouais, c'est le niveau de football de la CFL est extrêmement bon parce que quand tu penses à tout le monde qui était capable de jouer dans la NFL ou que tu sais, leur carrière n'a pas marché dans la NFL, fait que
Ouais.
le niveau de football de la CFL est très bon. Fait que définitivement, c'est sûr que oui.
OK. Puis j'ai oublié de te poser tantôt, Josh Filion, wide receiver, receveur de passe avec les Wildcats University of New Hampshire. Ça ressemble à quoi la routine d'un joueur de college football? Parce que vous étudiez, vous jouez, vous pratiquez. Donc, mettons, de lundi à dimanche, comment se passe ta semaine d'entraînement, match, etc.?
Oui, fait que dans le fond, on a deux différents horaires. On a l'horaire en saison pour l'horaire hors saison parce qu'il y a certaines règles sur le nombre d'heures que nos coachs ont le droit de nous faire travailler durant la saison et dehors de la saison. En saison, c'est 20 heures semaine qu'ils ont le droit. Hors saison, je pense que c'est 8 heures par semaine. Fait que
OK.
mettons, un lundi à dimanche, nous, on a nos lundis off parce que la NCAA requires you to have one day off. Fait que nous, on utilise le lundi. Mais nous autres, même les joueurs, on va avoir des meetings nous-mêmes parce que si on a le droit de les avoir, que les coachs ne sont pas là.
OK.
Dans le fond, ce qui n'est pas mandatoire, que nous, on fait par nous-mêmes, on a le droit d'avoir. Les coachs, eux autres, what they require is 20 hours a week. Fait que les lundis, on va avoir un meeting entre joueurs pour, mettons, regarder la défense de notre équipe, faire un scouting report, voir à quoi ça ressemble. Après ça, les mardis, jeudi, on a deux entraînements. On a un entraînement à chaque jour. Tu peux soit aller à l'entraînement de 6h30 le matin ou 8h, dépendant de tes cours.
8 h le matin?
Ouais, ou 6h30. Moi, je vais aux
Wow.
autres de 6h le matin parce que j'aime ça juste finir ça de bonne heure puis me lever de bonne heure aussi puis avoir un peu de temps entre mes cours avant que mes cours commencent.
OK, fait que les entraînements à 6 h 30 le matin, ça veut dire que tu vas pas au pub la veille, puis tu. Ben, il doit en avoir qui font ça pareil, là.
Ah, pas beaucoup, puis s'il y en a qui le font, ça ne dure pas très longtemps parce que ça finit par te rattraper.
OK.
Mais c'est ça, fait que ça, c'est 6h30 ou 8h30 le matin, les mardis puis les jeudis. Après ça, j'ai de l'école, fait que c'est ça, d'abord, j'ai des cours lundi, un meeting lundi, on arrive à mardi, j'ai un entraînement le matin, après ça, j'ai des cours jusqu'à midi et demi, après ça, on pratique de 2 heures, on est au meeting à 2 heures, puis on arrive, on peut pratiquer vers 5h30 environ. Après ça, les mercredis, on n'a pas d'entraînement. Le matin, on pratique encore de 3h45 ou 4h à 5h30, 6h avec nos meetings avant ça. Après ça, dans le fond, le jeudi, on a encore l'entraînement le matin. Après ça, meeting, pratique le restant de la journée. Nos vendredis, c'est souvent notre travel day parce que c'est là qu'on va voyager
Oui.
aussi. Fait que là, on va avoir plus des meetings, on va avoir un walkthrough, ce qu'on va juste revoir les jours qu'on a pratiqués la semaine, puis continuer à pratiquer notre plan pour le samedi même. Puis après, dans le fond, le samedi, c'est la game elle-même. Puis si on joue à la maison, dans le fond, on est déjà ici. Mais sinon, après ça, c'est là qu'on va bien à la maison le reste de la journée. Après ça, fait que ça c'est samedi. Puis le dimanche, on va avoir des meetings et des entraînements.
OK, fait que dans le fond, lundi off. OK. Quand vous dites entraînement, là, c'est muscu, puis meeting pratique, ça, c'est sur le terrain, c'est ça?
Ouais, dans le fond, c'est ça.
OK.
Fait que c'est musculation. Parce que meeting, ça va être dans mon groupe par position ou par, mettons, toute l'attaque ensemble. Ou après ça, special teams ou la défense ensemble. Puis après ça, en pratique, c'est ça sur le terrain.
Excellent. Excellent. Ben écoute, Josh, est-ce qu'il y a des gens que tu voulais saluer ici à Universitaire en Action sur CSM et CFAQ? Est-ce qu'il y a des gens à qui tu voulais passer le bonjour au Québec ou ailleurs?
C'est sûr, mes parents, ma mère Cindy, mon père Martin, ma belle-mère Julie, puis mon beau-père Sylvain.
Excellent,
Merci.
excellent. Ben écoute, on les salue. Je te remercie beaucoup de ton entrevue. C'était très intéressant. Je vais essayer d'aller voir ton match. Le 18 novembre, contre Maine, là, c'est Buffalo Wild Wings Day. Ça veut dire, c'est les ailes de poulet, c'est ça?
Ouais, les ailes de poulet.
OK. Est-ce que les concessions là-bas, là, pour la bouffe, est-ce que c'est cher comme au Centre Bell ou c'est abordable?
Je te dirais que c'est sûr que c'est plus abordable qu'au Centre Bell, mais avec le taux d'échange, ça peut finir par être proche de la même chose.
Ah ouais, c'est ça.
Okay, mais c'est définitivement moins cher au centre-ville, ça c'est
Vous
sûr.
avez des tailgates là-bas aussi?
Oui, on a des bons tailgates. Oui.
OK,
Oui.
excellent.
Ouais.
Excellent. Ben Josh, merci beaucoup pour ton temps. C'était très apprécié. Josh Fillion, receveur de passe des Wildcats de l'Université du New Hampshire. Merci beaucoup pour avoir donné de ton temps aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci.
Ah, bonne journée.
Bonne journée. C'était Josh Fillion et on le remercie beaucoup de nous avoir accordé du temps ici à CISM et à Universitaire en Action. On le sait là que les joueurs de football sont très occupés et ça nous a fait énormément plaisir de le recevoir. Et comme on dit en bon français là, c'est un bon Jack parce qu'il a pris le temps et il m'a même offert là une paire de billets si jamais j'avais envie d'aller les voir jouer à Durham au New Hampshire. C'est environ 4 heures, 4 heures et demie de route de Montréal. Ça se fait bien. Mais je risque probablement d'y aller, ou sinon, si ça ne sera pas à New Hampshire, ça risque d'être dans un autre État américain. Mais le football collégial, ça m'a toujours intéressé. Et puis, je pense qu'avec l'entrevue de Josh Fillion, ça me donne envie encore plus d'y aller. Donc, encore une fois, Josh Fillion, merci à toi et on te salue. On espère que tu auras une belle saison de football. Les matchs, d'ailleurs, sont disponibles là. Pour voir les résultats, vous allez sur le site des Wildcats de l'Université du New Hampshire. Et puis, vous pouvez voir là, que les résultats sont là. C'est dans Football. Et comme il a dit, j'ai trouvé ça intéressant là, qu'il joue un match à chaque année contre une équipe de la division supérieure. Cette année, c'était à Central Michigan. Donc, au Michigan, ils ont perdu 42 à 45. Et puis, le prochain match, là. Ça va être le 21 octobre à Stony Brook. Il y avait également un match hier là, contre Albany, mais vous le savez, c'est une émission préenregistrée cette semaine et donc on n'est pas en mesure d'aller vous dire s'ils ont gagné. Mais on espère qu'ils ont gagné. C'est une grosse rivalité, là, Albany-New York contre Wildcats du New Hampshire. Donc maintenant, on va y aller en musique avec nos nouveautés francophones de la semaine. J'ai nommé Andromède et seulement. Et ensuite, on va y aller avec une chanson italienne, Acida de Prozac. C'est une chanson qui est apparue dans la série italienne La Suburra, dans un moment quand même intéressant là, où est-ce que un des personnages importants de cette série-là chante puis devient complètement fou sur cette chanson. Donc on va terminer avec Acida et Prozac et après ça on revient avec d'autres informations sur le college football. Bonne écoute!
Cœur qui
Donc là, on est de retour à Universitaire en action sur les ondes de CISM, le 89,3 FM, la plus grande radio universitaire francophone au monde, avec Wissem Belsa au microphone pour encore une dizaine de minutes là. On va vous parler maintenant des meilleures foules. C'est-à-dire, on va commencer par vous mentionner les plus grands stades de football américain universitaire aux États-Unis. Puis après ça, on va vous donner le record jamais vu par rapport aux foules, aux spectateurs dans un match seulement de football américain. On va dire college football. Là. College football, ça veut dire football universitaire aux États-Unis. Ils utilisent le mot college. Donc, on commence le premier stade le plus grand. Là, c'est le top 25. On va voir si on se rend jusqu'à 25. Mais on va commencer par le numéro 1 à 10. Michigan avec 107 601 spectateurs. C'est à Ann Arbor au Michigan. Deuxième, Penn State, 106 572 spectateurs. Ça, Penn State, là, c'est pas très loin d'ici. Là, je veux dire, ça se fait un road trip pour les amateurs de college football. Troisième, Ohio State, 102 780 spectateurs. Ça, c'est à Columbus, Ohio, la même ville que les Blue Jackets de Columbus, l'équipe de hockey de la Ligue nationale. Texas A&M, Kyle Field, c'est 102 733 spectateurs. LSU, ça, c'est en Louisiane, à Baton Rouge, Tiger Stadium, 102 321 spectateurs. Tennessee, Neyland Stadium, Knoxville, Tennessee, 101 915 spectateurs. Alabama, Bryant-Denny Stadium, Tuscaloosa, Alabama, 101 821 spectateurs. Ça, Alabama, là, ils n'ont pas beaucoup d'équipes professionnelles là-bas, là, de la NFL, NHL, MLB, NBA, mais ils ont le Crimson d'Alabama, qui est une des équipes universitaires les plus suivies, les plus populaires et surtout une des meilleures à l'heure actuelle. Texas, Darrell K. Royal, Texas Memorial Stadium, 100 119 spectateurs. En Géorgie, on a le Sanford Stadium avec 93 000 spectateurs. On a le Rose Bowl à Pasadena, Californie. Ça, c'est l'université de Californie à Los Angeles, si je ne me trompe pas. 91 000 spectateurs. C'est là, je crois, qu'il y a eu une finale de Coupe du Monde en 1994, mais il faudrait que je confirme ça plus tard. Florida, Ben Hill Griffin, Gainesville, Florida, 89 000 spectateurs. Et après ça, il y en a plusieurs, on ne va pas toutes les nommer. Là. C'est sûr qu'à côté de nous, l'équipe la plus près, je vous dirais, qui a un stade énorme, ça doit probablement être Penn State. C'est environ à 7-8 heures de route d'ici, j'imagine. Ohio State, Columbus, c'est pas non plus au bout du monde. Et Michigan, ça commence à être loin, là, Ann Arbor, Michigan. Sinon, la plupart là, sont surtout dans le sud ou dans l'ouest des États-Unis. Là. Il y en a beaucoup en Floride, au Texas, Tennessee, Alabama, Georgie, Oklahoma, dans ce coin-là. Nebraska, ils ont quand même Memorial Stadium avec 85 000 spectateurs. Maintenant, quand on parle des records historiques dans le college football, eh bien, avant 2016, le record, c'était en 2013, Notre-Dame qui a visité justement Michigan et ils ont joué devant une foule de 115 109 spectateurs. Et Michigan a gagné le match 41 à 30. Mais le record, chers auditeurs de CISM, ça s'est passé le 10 septembre 2016 au Bristol Motor Speedway. Ça, c'est à Bristol, au Tennessee. C'est un endroit où est-ce que se pratiquent les courses de NASCAR, bien entendu. Et la foule, attachée, chapeau, casquette, tuque, la foule, c'était 156 990 spectateurs. Et bien sûr, le match était diffusé à ABC. Vous comprendrez que 156 000 spectateurs... 157 000 spectateurs, parce que 990, on peut l'arrondir à 1000. 157 000 spectateurs, même pour les matchs de Coupe du Monde, là, on n'a pas ça. On a peut-être ça au Maracana, quand le Brésil a accueilli la Coupe du Monde en 1950. Mais sinon, c'est très rare. Et Bristol, là, ça se retrouve pas mal au milieu, dans le nord du Tennessee. C'est au milieu, en fait, entre Nashville et Memphis, et c'est une ville de 27 000 spectateurs, Bristol, mais tout l'État du Tennessee y va pour les matchs de l'équipe locale et également, surtout, ils y vont pour le NASCAR, les Tennessee Volunteers, qui sont une équipe là, de l'État du Tennessee qui pratique leur football à Newland Stadium. Ça, c'est un stade d'environ 110 000 places. Donc, ils étaient déplacés pour l'événement ou peut-être qu'avant, ils avaient ce stade-là. Mais le fait reste, le fait demeure que le record de l'histoire de la NCAA, tout sport confondu, eh bien, c'est 157 000 spectateurs le 10 septembre 2016. Et ça a été une victoire des Tennessee Volunteers 45-24 contre les Virginia Tech Hokies. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand on compare le college football avec la NFL, on se rend compte que les foules, généralement, au college football, pour, évidemment, les grandes équipes, là, on parle pas ici là, des équipes qui sont un peu moins populaires, on parle des équipes comme Ohio State, comme Michigan, comme Alabama. En général, leurs foules sont très comparables à celles de la NFL et souvent, elles sont supérieures. Et quand on regarde, je vous ai parlé du record, là, de college football d'environ plus de 150 000 personnes, eh bien, le record dans la NFL est beaucoup plus bas. Le record de la NFL, c'était les Dallas Cowboys contre les Giants, 105 000 spectateurs. Ça, c'était le record. Et ça se passait du côté de Dallas. Mais par contre, le record de la NFL, c'était un match joué contre deux équipes du Texas, entre deux équipes du Texas, pardon, entre les Houston Texans et les Dallas Cowboys. Avant, ils ne s'appelaient pas les Houston Texans, ils ne s'appelaient pas les Texans, ils s'appelaient les Oilers. Et le match de 1994, le 15 août, 1994, en pré-saison, c'est le record absolu de 112 376 spectateurs. Ça, c'est le record pour un match de NFL. Par contre, il y a deux choses à spécifier là-dedans. La première chose, c'est que ce match-là, c'est un match pré-saison. Là, vous allez me dire, ouais, mais comment ça se fait que un match pré-saison, c'est le record de toute l'histoire de la NFL en termes de foule? Eh bien, si je vous disais que ce match-là n'a pas été joué dans le stade, dans un stade américain, il a été joué dans un stade mexicain. Il a été joué au Estadio Azteca de Mexico City, la ville de Mexico, un stade qui a eu comme record de foule en 1970, Mexique-Belgique, 108 000 spectateurs. Et pour la Coupe du Monde 1986, 114 000 spectateurs plusieurs fois, dont pour la finale entre l'Argentine et l'Allemagne de l'Ouest. Et en termes de record, mis à part celui-là, mis à part les matchs de la Coupe du Monde 1986, c'est le record absolu au Mexique, au Estadio Azteca. Il y a un autre match de football américain qui s'est joué là-bas, là, en 2005, San Francisco 49ers contre les Cardinals de l'Arizona. Ça a été 103 000 spectateurs. Mais c'est quand même étonnant de constater que 112 376 spectateurs, c'est le record de la NFL. Et ça a été pour un match, un pré-saison et deux qui s'est joué du côté du Mexique. Ça vous montre à quel point les Mexicains ont une passion pour le sport américain comme le football, parce que le football américain est très populaire aux États-Unis, là, au Mexique, pardon. Vous allez dans un endroit, un casino, là, où est-ce que vous pouvez parier sur le sport, parce que là-bas, ça existe, contrairement à ici au Québec, là. Pour faire du sports betting dans un casino, vous allez voir que la plupart des Mexicains parient beaucoup sur les courses de chevaux. Mais également, surtout sur la NFL. Quand je vous dis la plupart des Mexicains, je parle bien sûr de ceux qui sont dans le casino. Là, je ne parle pas de la population en général. Donc voilà, c'est quand même intéressant de parler de football américain ici à Universitaire en action. Donc ça met fin à cette émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Nous, on se revoit la semaine prochaine, dimanche prochain, Universitaire en action, avec une autre entrevue probablement pour vous. D'ici là, comme on dit en français, stay safe et portez-vous bien. Merci et au revoir.